Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, cette question, l'Assemblée nationale va-t-elle devoir fermer ses portes?
Un député du Haut-Rhin touché par le coronavirus, il est en réanimation. Un salarié de la buvette a aussi été contaminé. On va y revenir dans un instant. La France a enregistré hier la plus forte hausse de cas depuis le début de la crise. Dans le département de l'Oise, où tous les établissements scolaires sont fermés, les cours continuent grâce à la magie d'Internet. Agathe Landé, vous avez pu suivre ces cours à distance chez un prof de physique de Creil.
Oui, et Sébastien nous accueille chez lui, bien au chaud à la maison et loin du coronavirus. Il allume son ordinateur pour donner cours dans quelques instants à ses élèves de Terminale S.
C'est vraiment comme si on était dans une classe, sauf que le tableau est remplacé par le smartphone, la tablette ou l'écran des élèves.
On va parler de quoi du coup aujourd'hui là en cours?
Alors aujourd'hui on va corriger des exercices sur les mouvements des planètes et des satellites. Donc là je vais lancer l'activité un peu en avance puisqu'il est 13h20 et que le rendez-vous est donné à 13h30. Ça permet à chacun de se connecter tranquillement. Donc je clique dessus. Et je rentre dans la classe virtuelle. Bonjour à tous, confirmez-moi que vous m'entendez bien.
Moi je vous entends très bien.
Je vais commencer par l'exercice numéro 13 si vous voulez bien. Alors Rama, prends la parole si tu veux.
Ce petit bruit que vous venez d'entendre, il signale à Sébastien qu'un étudiant lève la main pour parler. Le cours va durer 1h30, les élèves participent.
Question 12, la Terre, il lui faut un an pour faire quoi?
Le tour du soleil.
Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, la Terre?
Elle tourne sur elle-même.
En combien de temps?
En 24 heures.
Le cours se termine et il est l'heure de demander aux élèves ce qu'ils pensent de ces cours à domicile.
Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on a le confort de la maison, mais c'est petit sur le téléphone et ça fait mal aux yeux.
Bon, moi, je préfère être ici qu'en classe. Je suis sérieux, je suis le cours et tout, mais à côté, je peux faire ce que je veux, quoi.
Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Chez moi, genre, je suis tout le temps dérangée, alors qu'en classe, on est tranquille, il n'y a personne, on n'a pas notre entourage qui nous distrait.
Merci à tous, je vais couper l'activité. Donc, je vous souhaite bon courage et travaillez bien d'ici mardi prochain.
Un reportage chez ce prof du lycée Jules Hury de Creil dans l'Oise. C'était un sujet d'Agathe Landais. On accueille Sophie Jousselin. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Est-ce que ce genre de pratique de cours à distance risque de se généraliser alors qu'on est sur le point de passer au stade 3? On entendait sur RTL à 6h15 ce matin le professeur Delfraissy nous dire que c'était pour le début de la semaine prochaine. Ces mots comptent hein, puisqu'il fait partie des spécialistes réunis hier à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Le stade 3, on en sait plus maintenant. Ça va changer quoi Sophie?
Eh bien, prenons par exemple, on vient d'en parler, l'enseignement. Alors, il ne faut pas imaginer que dès que le stade 3 sera déclaré, tous les établissements scolaires seront fermés. Ça pourra cependant être le cas localement. Tout dépendra de la situation dans les villes et les régions. Parce que le stade 3, il signifie certes que le virus circule librement sur le territoire, mais pas forcément partout avec la même intensité. Il pourra également y avoir des restrictions de circulation pouvant aller, selon les experts, jusqu'à la mise en place de zones rouges, comme en Italie, avec interdiction d'entrer et de sortir. Quant aux spectacles, aux événements sportifs, ils sont interdits aujourd'hui dans des endroits confinés rassemblant plus de 5000 personnes. Et bien en stade 3, ces restrictions pourront toucher des événements de moindre importance. Les matchs de foot, par exemple, pourront être joués à huis clos.
Et sur le plan médical, quelles répercussions? J'imagine qu'on ne va pas pouvoir hospitaliser tout le monde.
Absolument, il y aura un changement de doctrine jusqu'à aujourd'hui. Et même si depuis quelques jours les règles sont allégées, toutes les personnes infectées par le coronavirus sont hospitalisées. Au stade 3, n'iront à l'hôpital que les cas graves, pour ne pas engorger les hôpitaux, car en plus des malades du coronavirus, il faudra bien sûr continuer à soigner les infarctus, les AVC ou les fractures. Donc c'est la médecine de ville qui prendra en charge les malades les moins touchés. Ils seront soignés à domicile, comme ça se passe avec une grippe classique.
Merci Sophie Jousselin.
On l'a appris cette nuit, l'Assemblée nationale est à son tour touchée par le virus. C'est un député qui est en réanimation.
Jean-Luc Redzer, élu LR du Haut-Rhin, il est hospitalisé à Mulhouse. Il a 68 ans et il siège dans la même commission, celle des affaires étrangères, que Valérie Boyer, Vincent Derosier vient de la joindre.
Tout le monde se croise à l'Assemblée nationale, effectivement. En premier lieu, je voudrais apporter toutes mes amicales pensées à mon collègue Jean-Luc Redzer. J'espère qu'il entend ce message, à lui dire toute mon affection. Nous siégeons dans la même commission, il est à la commission des affaires étrangères. Je ne suis pas inquiète en ce qui me concerne.
Faut-il envisager de fermer l'Assemblée nationale ou de suspendre les travaux des parlementaires?
Vu la façon dont nous travaillons aujourd'hui, de façon totalement incohérente sur la réforme des retraites, je pense qu'il serait raisonnable que le gouvernement se concentre sur la propagation du Covid-19.
Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône avec Vincent Derosier, un salarié de la buvette de l'Assemblée est aussi contaminé. Il y a aussi un cas suspect chez un employé du restaurant. Le restaurant de l'Assemblée comme la buvette qui resteront fermés ce vendredi. À la RATP où deux agents ont été testés positifs, des kits de prévention vont être distribués à partir d'aujourd'hui. 138 cas supplémentaires ont été enregistrés hier en France. C'est la plus forte hausse depuis l'apparition du virus sur notre sol. Et puis, conséquences économiques inattendues de cette crise sanitaire, les clubs de foot italiens perdent des plumes en bourse. Depuis que les matchs se jouent à huis clos, les recettes sont en chute libre. La Juve de Ronaldo a ainsi perdu hier 6% la bourse de Milan, 32% depuis le début de l'année. En France, on l'a entendu avec Sophie, on ne peut plus écarter la menace sur la Ligue 1. De plus en plus d'événements sportifs sont annulés ou reportés. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes dans un lieu fermé sont interdits jusqu'au 31 mai. Ça va faire des dégâts, hein, Nicolas Georgerot.
Oui, à l'Accor Hôtel Arena notamment, dont la capacité peut dépasser les 15 000 personnes. Il y a le tournoi de qualification olympique des handballeurs français mi-avril. La fédération n'exclut pas de devoir rembourser plusieurs milliers de billets. Autre tournoi similaire, celui du karaté en mai. Les dirigeants français sont prêts à abandonner Bercy pour une autre salle et faire la compétition à huis clos pour éviter de perdre de l'argent. Le basket organise ses finales de Coupe de France. Il y a également les championnats d'Europe de gym. 38 nations attendues avec sans doute des défections. Toutes ces fédérations vont rencontrer prochainement le directeur des sports du ministère pour faire un point sur la situation. Problématique identique pour Roland Garros. Le nouveau toit vient d'être installé sur le central. Son utilisation serait impossible en cas de pluie, un comble. Lors de la première semaine de l'épreuve, le court châtrier se transformerait en salle de 15 000 places. Le rugby, enfin, le Racing 92, la jauge de son enceinte devra être revue à 5 000 places. Les Franciliens ont 3 matchs à domicile d'ici fin mai.
Nicolas Georgerot.
RTL Matin, 8h07.
Dans le reste de l'actualité, ce cessez-le-feu fragile en Syrie.
Les dernières heures ont été plus calmes à Idlib, dans le nord-ouest, depuis l'entrée en vigueur à minuit de l'accord signé entre la Russie et la Turquie. Les récentes violences ont fait plus de 500 morts chez les civils, 1 million de déplacés. Ce cessez-le-feu est un premier pas pour Didier Billon, chercheur à l'IRIS.
Chacun campe sur ses positions, mais en même temps, et ça c'est l'aspect peut-être le plus important, c'est que chacun sait jusqu'où ne pas aller. C'est-à-dire que chacun a compris que ne pas trouver une solution, que poursuivre les combats, et on sait toujours que dans ce type de situation, celle-ci peut devenir incontrôlable. Les Russes et les Turcs ont compris qu'il valait mieux faire baisser la tension. Ça ne veut pas dire régler définitivement le problème, bien sûr, mais on essaye d'engager un processus de solution. Mais on en est à l'orée pour l'instant. Les combats cessent, c'est déjà un premier pas. La question qui se pose maintenant, c'est que dans les meilleurs délais puisse être mis en place une sorte de bande de sécurité de façon à pouvoir faire parvenir une aide humanitaire d'urgence. Il faut que nous passions à un cran supérieur.
Didier Billon avec Yann Boucherie. Emmanuel Macron salue une décision historique après le renoncement d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Après des mois de suspense, le président a annoncé qu'il ne se représenterait pas un troisième mandat. Il avait pourtant modifié la constitution pour pouvoir le faire.
Après la pause, les municipales dans l'un des plus petits villages de France, le maire sortant a 14 habitants à convaincre.
On est 14 votants, 7 conseillers, c'est la moitié de la population. Hein.
Reportage dans un instant.
RTL, 8h09.
Lidl.fr. RTL Matin.
RTL, 8h10, la suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi.
RTL, municipal 2020.
Les municipales dans les tout petits villages, bon, c'est souvent une affaire de famille.
Oui, comme ici à Guinecourt, dans le Pas-de-Calais. C'est la plus petite commune du département. 17 habitants, 14 votants, dont 7 doivent figurer, c'est la règle, sur la liste du candidat. En l'occurrence, le maire sortant, qui a dû solliciter pour faire le compte les épouses des messieurs volontaires. Reportage de Franck Hanson.
Une rue principale, 3 fermes, une toute petite mairie en briques. À Guinecourt, le maire Léon Vichery s'est décidé à rempiler pour un nouveau mandat.
On est 14 votants, 7 conseillers, c'est la moitié de la population. Hein. Non, il n'y a pas de comprendre du tout.
Oh, c'est le mairie qu'il y a, non ?
Dans ce village du Ternois, pas besoin de faire campagne. Il a juste fallu trouver quelques colistiers.
J'ai fait du porte-à-porte pour remplacer De conseiller, ouais. Il faut quand même se rassembler. Hein. C'est tout retraité, il n'a plus qu'un travailleur normalement.
Comme il n'y a plus d'enfants scolarisés, les dépenses du conseil municipal se limitent à l'entretien des chemins communaux et au colis des anciens pour Noël. Plusieurs membres d'une même famille sont candidats, confirme Alain Tellier, qui tient à garder une certaine autonomie.
Lorsqu'on sera rattaché à une autre commune, c'est eux, ils feront la pluie et le beau temps. Pour le moment, tant qu'il y a encore assez de citoyens qui veulent bien prendre la place de conseiller, tout va bien. Bon, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, c'est vrai. Comme dans les familles, oui, voilà, tout à fait.
Et Régine, retraitée agricole, a accepté de suivre les traces de son époux et de son père, ancien élu.
C'est la première fois que je suis candidate dans notre petit village. Il faut se dévouer tous les deux. Il y avait encore les Anglais qui n'ont plus le droit de voter. Donc ça fait deux personnes en moins. Certainement que tout le monde va passer au premier tour.
L'isoloir bricolé avec un rideau est déjà prêt dans la mairie. Le jour de l'élection, tout va très vite à Guincourt avec ses 14 votants. Mais le bureau doit rester ouvert jusqu'à la fin du vote en France.
Reportage signé Franck Hanson.
RTL 8h12.
C'est toujours le choc en Alsace après cet accident de TGV qualifié de rarissime par les cheminots.
Le déraillement du train Colmar-Paris dû à un glissement de terrain. Le talus s'est effondré au passage des rames. L'accident a fait 22 blessés, dont le conducteur. Pas moins de 3 enquêtes sont ouvertes.
Alors, ces talus qui longent les voies sont-ils suffisamment surveillés et entretenus par la SNCF? Eh bien, c'est la question de 8h.
Et c'est avec vous, Éric Vanier. Bonjour.
Bonjour.
Ce genre d'éboulement se produit-il souvent?
Non, de cette ampleur, avec un malheureux concours de circonstances, c'est-à-dire juste au moment du passage d'un TGV, ça arrive très rarement, mais l'an dernier, SNCF Réseau a quand même recensé une petite centaine d'incidents sur ces déblais et remblais. Ça allait du petit ravinement au gros éboulement, en passant par le glissement de terrain classique. Depuis le début du mois de février, par exemple, le trafic en banlieue parisienne sur les lignes L et U est interrompu à cause de l'effondrement d'un talus.
Et la SNCF ne peut rien faire?
Si, bien sûr, elle a des experts en ouvrage en terre, c'est comme cela que l'on dit à la SNCF, dont la mission justement est de repérer les zones à risque, les secteurs qui se dégradent, en fonction des signalements que font des hélicoptères qui passent une fois par trimestre à 30 mètres au-dessus de ces remblais et déblais ferroviaires, en fonction aussi des rapports établis par les agents qui font des tournées de surveillance à pied le long des voies. SNCF Réseau utilise également des inclinomètres, ce sont des capteurs d'inclinaison qui donnent l'alerte si la pente d'un talus s'accentue.
Et quand un problème est identifié, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a plusieurs solutions possibles selon la gravité. Ça va de la revégétalisation du talus à sa bétonisation, en passant par la pose de filets ou de grillages métalliques, ou encore planter, enfoncer des pieux et même parfois déclencher artificiellement et préventivement des glissements de terrain, comme les avalanches dans les stations de ski.
Et ben voilà, vous avez découvert avec nous les inclinomètres, la question de 8h avec Éric Vanier.
En football, c'est Saint-Etienne qui affrontera le PSG en finale de la Coupe de France, première finale dans cette compétition pour les Verts depuis 1982. Les Stéphanois ont battu Rennes 2-1.
Qu'est-ce que vous gâchez comme papier? L'histoire du jour.
Aux États-Unis, une centenaire qui souhaitait s'offrir les frissons d'une arrestation, oui, a vu son rêve exaucé. Au moment de souffler les bougies, les policiers débarquent dans la maison de retraite. Ruth Bryant, interpellée pour exhibitionnisme et menottée à son déambulateur, direction la prison du comté de Pearson en Caroline du Nord. Je suis en prison, s'amuse la dame en exhibant son t-shirt orange de détenu. Elle n'est restée que quelques minutes, le temps de se faire photographier comme tous les suspects.
Ah bah vous résistez pas un petit coup de Gainsbourg, vous?
Ah bah non, jamais.
C'était le journal de Jérôme Florent.